Merci de vous être libéré. On a reçu pas mal de procurations de nos collègues, dont je vous donne connaissance. Renaud Beretti, qui me donne son pouvoir. Pascal Peller, qui le donne à Michel Frugier. Marie-Pierre Montoro à Thibaut Guigue. Joachim Torres à Nicolas Verriot, qui est là. Aurore Margaillan à Isabelle Moreau, qui est là. Nathalie Murguet à Georges Buisson, que je viens de voir. Lucie Dalpalu à Soukaina Bounik, qui est là. Christelle Ancio à Nathalie Raymond, que j'ai vue aussi. Où est-ce qu'elle est ? Là-bas. Lorraine Modica à Nicolas Poyeux, qui vient d'arriver. Reynald Vial à Marina Ferrari, qui est à mes côtés. Fatia Brunetti à André Jiménez, qui est là. Fabrice Mossi à Dominique Fier. Alors, on est là pour parler d'un sujet qui est évidemment un sujet important, sur lequel je reviendrai sans doute en détail. Simplement pour vous expliquer le fonctionnement de la séance, on a souhaité faire une séance unique sur cette question des termes. C'est rare qu'on fasse des questions uniques sur un seul conseil municipal. C'est donc pour effectivement la mettre bien en valeur. On a trois délibérations nécessaires néanmoins pour arriver à nos fins, à savoir... Une première délibération qui prononcera la désaffectation par anticipation des locaux occupés par les services publics actuellement installés dans les thermes. À l'issue de du vote de cette délibération, je suspendrai la séance parce que cette délibération doit être validée en préfecture et affichée en mairie. Un système électronique qui ne devrait pas prendre trop de temps, mais il y a une incertitude quand même sur le délai. La dernière fois qu'on a vécu ça à l'agglomération, ça a duré ni peu ni assez. Donc là, il y a un délai que je ne maîtrise pas. Pardon ? Voilà, lié à la pause déjeuner. Donc c'est automatisé. C'est personne qui est en face, c'est un système de machine. Il y aura une deuxième délibération quand la séance sera reprise, qui prononcera le déclassement des locaux désaffectés. Pareil, avec un effet différé. On vous expliquera tout ça. Et puis la troisième délibération qui finalisera les conditions définitives de la vente. Voilà. Alors, j'ai proposé que nous ayons un seul rapporteur sur cette affaire. En l'occurrence, ce sera Marina, pour qu'on ait une unité un petit peu de présentation sur les trois délibérations. On verra comment le débat s'organise. L'idéal, ce serait qu'il s'organise sur la troisième délibération. En même temps, la troisième, sans les deux premières, n'a pas de sens. Donc, je ne sais pas comment vous souhaiterez aménager vos interventions. Tout ça est bien sûr parfaitement libre. Donc, je vous propose de rentrer, sans plus attendre, dans le vif du sujet, sur la première délibération qui vous est proposée et qui vise donc à désaffecter par anticipation les locaux occupés dans les thermes par les services publics. Marina.
Oui, bonjour chers collègues. Peut-être, monsieur le maire, un point d'horizon complet sur les trois délibérations, comme vous venez de le faire, en rentrant un peu plus dans le détail. Donc, nous allons examiner, et vous serez amené à vous prononcer donc, sur trois délibérations, comme vous l'a expliqué monsieur le maire, portant sur la cession définitive du bâtiment des anciens thermes au groupement constitué à parité par, je le rappelle, la SAS Développement, donc Société d'aménagement de la Savoie, et Bouygues Immobilier. Alors, c'est un dossier extrêmement important pour notre ville et surtout pour le patrimoine thermal et pour la sauvegarde du patrimoine thermal. Il va donc être traité en trois temps, comme vous l'a exposé monsieur le maire. Une première délibération qui prononcera la désaffection avec effet différé des locaux occupés par les services publics.
Désaffectation.
Oui.
La désaffection.
Ah pardon, désaffectation, pardon. Une deuxième délibération prononçant le déclassement des locaux désaffectés avec effet différé et une troisième délibération finalisant les conditions définitives de la vente du bâtiment. Alors, pour des raisons pratiques, le maire vous l'a expliqué, hein, donc la première délibération votée doit être exécutoire avant que ne soient abordées les deux autres délibérations. Et il vous sera donc proposé, dès après le premier vote, une suspension de séance afin qu'elle soit transmise en préfecture et que nous en ayons l'accusé de réception. Alors, concernant la première délibération, donc qui porte désaffectation avec effet différé de locaux ci dans les anciens thermes. Alors, le bâtiment, comme vous le savez, est aujourd'hui occupé par des services publics suivants : l'accueil de l'Office du tourisme, l'accueil l'accueil de la mission locale jeune, la mission Habitat, Expass et un gymnase dans l'aile sud. Avant toute cession du bâtiment, cette délibération propose de désaffecter avec effet différé ses locaux. À travers donc cette délibération, la commune s'engage à vider le bâtiment de ses services publics au 30 juin 2020. Cette disposition nouvelle du droit de la propriété publique nous permet ainsi de vendre immédiatement le bâtiment sans le vider immédiatement de ses occupants. Cette procédure s'accompagne toutefois donc d'une garantie pour le groupement, selon laquelle, si la commune n'arrivait pas à transférer ses services publics ailleurs que dans le bâtiment dans ce délai, elle serait redevable d'une indemnité résolutoire. Cette indemnité correspondrait au débours engagé par le groupement pour l'acquisition du bâtiment au 30 juin 2020. Elle serait payée par la commune sur preuve des justificatifs du groupement. Il convient de remarquer toutefois que cette hypothèse est théorique, puisque d'ores et déjà la commune a reçu l'engagement du CHS et de l'Office de tourisme pour quitter le bâtiment, que la mission locale le quittera concrètement dès le mois de juin et que pour le reste, il s'agit des services publics donc qui sont sous notre autorité directe, à notre charge de nous organiser pour que le bâtiment soit donc libéré en juin 2020. La deuxième délibération, elle, portera sur le déclassement du bâtiment. Elle tire donc la conséquence de la désaffectation avec effet différé des locaux occupés par les services publics et prononcera leur déclassement. Cette délibération rendra ainsi concrètement possible la cession définitive du bâtiment. Et enfin, la troisième délibération qui porte, elle, sur la cession définitive du bâtiment. Donc, elle reprend les conditions fixées dans la promesse unilatérale de vente délibérée par notre conseil municipal en date du 30 juin 2016 en apportant quelques modifications qui sont une régularisation non plus par tranche mais en une seule fois. La vente interviendra pour l'intégralité du bâtiment en un seul et unique transfert de propriété. La cession définitive porte sur le périmètre du bâtiment tel qu'il est précisé dans le plan de cession qui vous a été annexé, que vous avez pu consulter, pour une surface globale de 13 703 m² environ. Le prix reste identique à 1,2 million d'euros à encaisser pour la commune. L'avis du service des domaines en date du 27 avril 2018, que vous avez également annexé, a confirmé à nouveau ce prix. Il est toutefois proposé que le paiement de ce prix intervienne non pas à la cession du bâtiment, mais au 1er décembre 2020, date à laquelle le groupement commencera réellement les travaux dans le bâtiment. Sur le désamiantage, alors que la promesse unilatérale de vente proposait de plafonner à 500 000 euros la prise en charge par la commune du désamiantage, il vous est désormais proposé d'accepter que la commune prenne en charge l'intégralité du désamiantage du bâtiment et soit en maîtrise d'ouvrage de ce chantier jusqu'à son achèvement. Du désamiantage. Il convient de noter que ce chantier a été estimé à 2,5 millions d'euros. Par ailleurs, je vous informe qu'une demande de subvention FEDER est en cours d'instruction qui pourrait faire l'objet d'un subventionnement à hauteur de 50%. La libération des lieux. La délibération précise que la commune est autorisée par le groupement à poursuivre l'ensemble des conventions d'occupation précaire qu'elle a pu consentir dans les termes. Elle pourra ainsi encaisser les loyers correspondants et répartir les charges du bâtiment jusqu'au 30 juin 2020. Concernant la servitude non altius tollendi, conformément aux conclusions de notre dernier comité de suivi, le groupement va lancer un concours d'architectes dans le respect des règles actuelles du PLUI. Il est proposé qu'à l'issue de ce concours, l'avis de la commune soit requis par le groupement sur le choix du projet qui serait retenu. Cet avis sera un avis conforme. C'est-à-dire que le groupement aura l'obligation de consulter la commune, mais qu'il aura d'autre part l'obligation de respecter l'avis que nous donnerons à ce moment-là. Dans l'hypothèse où le projet retenu par la commune ne conviendrait pas au groupement, la présente délibération prévoit que les deux parties retrouveraient alors leur entière liberté sans aucune indemnité, ni pour l'une ni pour l'autre. Voilà donc pour la présentation globale du contexte sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui. Et si vous le permettez, on passe tout de suite à la première délibération, donc qui est la désaffectation à effet différé des locaux SI dans les anciens termes et occupés par des services. Donc, afin de permettre la réalisation de la cession du bâtiment, prévue dans la promesse unilatérale de vente passée le 22 juillet 2016, il est nécessaire de désaffecter les locaux occupés par les services suivants qu'on a listés tout à l'heure, hein, l'accueil de l'office de tourisme pour 120 m², l'accueil de la mission locale jeune 52 m², la mission Habitat 20 m², le guichet unique Expass 60 m², le gymnase 620 m² et des locaux occupés par l'accueil de jour pédopsychiatrique du centre hospitalier de Bassins pour 754 m². Cette désaffectation prendra effet au plus tard, comme nous l'avons déjà évoqué, le 30 juin 2020, et elle sera constatée par acte d'huissier. D'ores et déjà, la ville dispose, on l'a dit, des engagements suivants. Courrier du CHS en date du 25 avril 2018. Mission locale jeune, donc un bail a déjà été signé pour un autre local par la mission locale jeune. Et un courrier de l'OTI en date du 25 avril 2018. Il vous est donc proposé de délibérer ainsi qu'il suit. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le plan joint en annexe, le Conseil municipal, après en avoir débattu, décide petit 1 de désaffecter les locaux précédemment évoqués, petit 2 de prévoit de transférer les services listés ci-avant dans des locaux aménagés sur le territoire communal, et petit 3 charge le maire ou son représentant d'accomplir plus généralement toutes les formalités nécessaires à l'aboutissement de cette désaffectation et au transfert des services mentionnés dans de nouveaux locaux.
Merci Marina. Alors, est-ce que sur cette première délibération, il y a des volontés de parole ? Dominique.
Oui, ça va être rapide. Étant donné qu'on est depuis le début contre la vente des bâtiments, nous voterons donc contre la désaffectation et la déclassification.
D'accord, c'est parfaitement cohérent en effet. André ?
Alors donc, bonjour à tous. Si je représente Fatia, c'est d'abord qu'elle travaille. Et c'est un peu bizarre, hein, déjà, qu'on n'est pas très nombreux dans ce groupe minoritaire. Si en plus on a mis un horaire qui ne permet pas aux gens qui travaillent de venir pour un conseil municipal aussi important, c'est drôlement compliqué pour nous. Notre souci n'est pas ici de venir faire des effets de manche devant le public ou devant... Oui, je sais bien que c'est pour tout le monde pareil, hein. Devant la presse, mais surtout de trouver une solution ou alors de grappiller quelques électeurs mécontents par ces sujets-là. Mais surtout, c'est pour essayer de trouver vraiment une solution à ce bâtiment qui est dans mon dos et qui nous pèse vraiment lourd sur la conscience et sur le budget surtout. Alors sur cette première délibération, la 40, qui parle de la désaffectation et du relogement des 6 occupants, moi ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a rien qui est dit sur le 7e occupant. Et c'est celui qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'école Perfit. Alors, il avait eu, au moment où Perfit avait fait des travaux pour s'installer, un droit à un loyer compensatoire très modéré. Maintenant, comme on ne sait rien sur cette... relogement ou ce départ de l'école Perfit ou cette maintien, dans le comité de pilotage qu'on avait eu il y a à peu près 3 semaines, il avait été dit que Bouygues en faisait son affaire et que c'est lui qui allait traiter directement avec Perfit, avec la promesse de où il acceptait les conditions de relogement et de rachat des bâtiments, ou alors il s'en allait. En tout cas, jusqu'en 2020, puisque ça court jusqu'en 2020, j'espère que maintenant que le rabais qui lui a été consenti pour les travaux qu'il a effectués ont été, à mon avis, amortis, qu'on lui appliquera un vrai loyer commercial et pas un loyer, comme on dit, modéré. Moi, ce que je ne sais pas non plus, c'est quelles sont à ce jour les conditions financières du relogement de ces 7 occupants. Moi, je ne peux pas voter une délibération, sachant pas si ça va me coûter 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Donc j'aurais bien aimé qu'on me fasse aussi une prévision par les services ou par des consultants, étant donné qu'on sait que déjà les consultants, ça a été compliqué. On verra tout à l'heure sur l'histoire de l'amiante. On s'est trompé vraiment d'échelle. Hein. On est passé de 500 000 à 3 millions ou 2,5 millions hors taxes et 3 millions TTC. Donc ce n'est pas une erreur, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc sur... voilà, à peu près. Bon, oui, dernier point, c'est la date butoir du 30 juin 2020. Moi, je trouve que quand même, tout le monde sait qu'en mars 2020, il y a des élections. Et je trouve un peu cavalier d'avoir mis cette date 2020 pour éventuellement passer le dossier à une nouvelle équipe qui viendrait en place et de ne pas avoir mis comme date butoir le 31 décembre 2019, de façon à ce qu'on rende à l'équipe qui va suivre... des comptes à peu près clairs et épurés de toute dette excessive. Voilà. Nous voterons bien sûr contre et je demanderai, de façon à préserver l'intimité et le choix de chacun, un vote à bulletin secret. Merci.
Merci André. Est-ce qu'il y a d'autres volontés de parole ? Serge ?
Oui, pour ma part, bonsoir à tous. Je souhaiterais que dans votre délibération, vous rajoutiez que s'il n'y avait pas vente, elle était annulée. Parce que vous dites, il faut faire les deux premières pour avoir la troisième, mais si vous ne faites pas la troisième, à quoi servent les deux premières ?
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres volontés d'intervention sur ce sujet ? Non ? Alors, peut-être quelques éléments de réponse. Sur la date du Conseil, question d'André Jiménez, cette date, elle est décidée en essayant de faire une séance spéciale sur ce sujet, et elle est décidée dans un planning de travaux ou de dépôt de permis de construire à démarrer, puisque par exemple sur le permis de construire qui va viser dans un premier temps la création du parking, 400 places nouvelles dans le parking de l'hôtel de ville, il est prévu de déposer ce permis avant l'été. Donc il y a un compte à rebours qui a été fait. Et puis si je puis me permettre de manière un peu perfide, ce n'est pas seulement une question d'horaire quand il y a des absences au conseil municipal, ou au conseil communautaire d'ailleurs. Donc je ne crois pas qu'il y ait de difficultés sur ce sujet-là. Sur l'école Perfitte, elle n'est pas visée par la délibération de désaffectation, parce que ce n'est pas un service public. Donc elle n'a pas à être visée dans cette délibération, mais bien entendu que la libération des lieux par l'école Perfitte est un des sujets, et au fond, il se traduit de la manière... C'est un des sujets sur lesquels, d'ailleurs, on a passé beaucoup de temps ces derniers mois. Je rappelle que ces trois délibérations ne sortent pas du chapeau comme ça, par hasard. L'école Perfitte a donc finalement décidé d'acheter la partie sud, comme c'était prévu d'ailleurs au départ, de l'ancien établissement thermal. Et c'est une des raisons pour lesquelles, mais c'est vrai aussi pour nous, nous avons, ça répond à ta quatrième question sur la date butoir, on a mis la date butoir du 30 juin 2020 parce qu'il faut construire. Pour reloger par exemple le CHS, on construira un nouvel immeuble. Et donc les délais de construction, dépôt de permis de construire, etc., sont nécessairement longs, sachant que sur le plan financier, ce sera neutre, puisque par exemple le CHS paiera un loyer correspondant au coût d'équilibre de l'investissement qui sera fait. Sur le coût du relogement, alors il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet agglomération, puisque maintenant l'Office du tourisme est passé sous bannière intercommunale, et l'agglomération n'a aucune envie, aucun appétit pour aller dépenser des 1000 et des 100 dans le relogement provisoire de l'Office du tourisme. Sur ce qui concerne nos propres services, c'est exactement évidemment la même chose. Et il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'actuellement, le bâtiment nous coûte 300 000 euros ou pas très loin de charges par an. Et donc nous serons de toute façon dans un coût annuel inférieur à ce que ça nous coûte actuellement. Et juste un mot pour dire que quel que soit le sujet, enfin, sauf si on souhaite que les thermes tombent petit à petit en ruine, il y aura un moment où il faudra vider les thermes de ses occupants pour pouvoir faire les travaux. Donc il n'y a pas de lézard ou il n'y a pas de surcoût sur cette opération, sauf à considérer effectivement qu'on ne la fait pas, mais ce n'est évidemment pas notre objectif. Serge, tu as à la fois raison dans ton intervention en disant si la troisième délibération n'est pas votée, les deux premières ont moins d'intérêt. Mais néanmoins, c'est un peu la même réponse que pour André. Soit on considère qu'on ne fait jamais rien dans ce bâtiment, et auquel cas, effectivement, il n'y a pas besoin de voter ni la désaffectation ni le déclassement, soit on considère qu'il faut reconvertir ce bâtiment et pas le laisser tomber en ruine. Et si tu veux, d'une manière ou d'une autre, alors sur la manière, on peut ne pas être d'accord, mais d'une manière ou d'une autre, reconvertir ce bâtiment, il faudra passer par sa désaffectation, puis son déclassement du domaine public communal. Donc voilà un petit peu les sujets qui me semblent, les réponses qu'on peut faire, me semble-t-il, sur cette désaffectation. Sur le vote à bulletin secret, je vais commencer par faire voter là-dessus. La loi est assez claire, hein, c'est l'article 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales qui dit que le vote à bulletin secret est de droit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. Et donc je vous propose de voter sur cette demande de vote à bulletin secret. Très sincèrement, je ne souhaite pas qu'on suive ta demande. Je ne vois pas très bien ce que ça change. Tout le monde sait à peu près qui va voter quoi sur le sujet, et ça ne fera que rendre encore un peu plus difficile, un peu plus longue, la suspension qui viendra derrière avec une transmission en préfecture un peu plus lointaine. Mais comme c'est ta demande, je passe néanmoins au vote sur cette demande de vote à bulletin secret, qui est donc pour cette demande de vote à bulletin secret. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre ? Merci. Donc, il n'y a pas de vote à bulletin secret. Je fais néanmoins voter maintenant à main levée sur cette désaffectation, qui est donc notre première délibération après laquelle la séance sera suspendue. Est-ce que sur cette désaffectation à effet différé, il y a des oppositions ? 4, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Aucune, je vous remercie. Alors, je vais donc maintenant suspendre la séance comme je vous l'avais annoncé. Nos services vont transmettre automatiquement, électroniquement en préfecture cette délibération et on se retrouve dans quelques minutes dès lors qu'on aura le retour de la préfecture. Merci. Pardon pour cette interruption qui a été finalement relativement courte, mais enfin quand même. Je propose donc de reprendre notre séance. Marina, je te donne tout de suite la parole pour donc la deuxième délibération sur le déclassement du domaine public.
Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du 30 juin 2016, le Conseil municipal a autorisé le maire à signer une promesse unilatérale de vente avec le groupement SAS Développement Bouygues Immobilier, promesse au terme de laquelle il a été convenu la vente des bâtiments des anciens thermes. Le représentant de la commune a signé cette promesse unilatérale de vente le 22 juillet 2016, comme ça vous a été précisé précédemment, promesse prolongée depuis jusqu'à fin 2018. À la suite des différents échanges et mises au point intervenues entre les parties, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à régulariser l'acte authentique de vente en y apportant les quelques modifications. Non, je me suis trompée, excusez-moi. Je suis partie sur la mauvaise délibération. J'étais sur la troisième.
Alors, on recommence tout.
On recommence, pardon. J'étais déjà passée une étape supplémentaire. Alors, par délibération du 4 mai 2018 exécutoire, le conseil municipal a décidé de désaffecter les locaux dont nous avons évoqués tout à l'heure. La désaffection des locaux prendra effet au plus tard le 30 juin 2020. Elle sera constatée par acte d'huissier. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'approuver le déclassement du domaine public communal des locaux désignés ci-avant pour une contenance de 1626 m², ce qui, par voie de conséquence, entraîne leur incorporation au domaine privé de la commune. À ce sujet, l'acte de vente comportera une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente en cas de non-désaffectation des locaux au 30 juin 2020. Cette clause fixerait le montant de la pénalité à payer par la commune. Cette pénalité serait estimée à 3 millions d'euros et devra faire l'objet d'une provision semi-budgétaire selon les modalités définies par le Code général des collectivités territoriales. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 mai 2018, vu le plan joint en annexe, vu l'étude d'impact jointe qui vous a été transmise, considérant la désaffectation des locaux décidée à effet au plus tard le 30 juin 2020, le Conseil municipal, après en avoir débattu, approuve les termes de l'étude d'impact annexée à la présente délibération, décide de déclasser du domaine public les locaux que nous avons évoqués, prend acte par voie de conséquence de l'incorporation des dépendances susvisées dans le domaine privé de la commune, prévoit que l'acte de vente comportera une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente et le montant de la pénalité correspondante ainsi que les conditions de libération de l'immeuble par le service public, prévoit qu'une provision semi-budgétaire de 3 millions d'euros sera portée au budget principal de la commune, répartie de 2018 à 2020, et charge Monsieur le maire ou son représentant d'accomplir plus généralement toutes les formalités nécessaires à l'aboutissement de ce déclassement.
Merci Marina. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce point-là, André ?
Moi, je comprends bien qu'il faille très vite faire passer le domaine dans le domaine privé, quelque chose qui était dans le domaine public. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a signé il y a quelque temps des baux avec des occupants de 15, 20 à 40 ans, pour certains, alors qu'on savait très bien qu'à brève échéance ou à moyenne échéance, ces locaux allaient être frappés soit de vente, soit de désaffectation, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, ce qui me choque, c'est de prendre le risque de faire tomber sur la nouvelle équipe municipale de 2020, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, une pénalité qui pourrait être à hauteur de 3 millions d'euros, ça me paraît quand même lourd et risqué. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi est-ce que la ville, depuis le temps qu'on tourne autour de ces bâtiments-là, on n'a pas pris un vrai cabinet de consultants, un vrai conseil, quelqu'un qui fait autorité dans la matière et qui puisse un peu mieux nous guider que nous, élus, qui sommes quand même un tout petit peu, parfois, non informés sur l'avenir d'un tel projet. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire sur cette première. Et bien sûr, je voterai contre, sauf si la pénalité de 3 millions d'euros est quand même revue un peu à la baisse.
Merci André.
Mais je suis pour le passage dans le domaine, bien sûr, privé de ce patrimoine public.
T'es pour, mais tu voteras contre.
Je suis pour, mais je vote. Non, voilà, mais vous avez bien connu, compris ma condition suspensive.
Absolument. Dominique.
Nous, on restera dans la même logique et on est contre la privatisation, donc on votera également contre.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou volontés de prise de parole? Non, pas. Je réponds, tu réponds? Moi, je peux répondre si tu veux, peut-être. Tu compléteras. Donc, bon, Dominique, pareil, hein, dont acte de la cohérence absolue de vos positions depuis le départ. Là, sur les éléments donnés par André, la pénalité de 3 millions, moi, je trouve que pour moi, ce n'est pas une pénalité. C'est une indemnisation, en réalité, des démarches qui auront été faites par le groupement à ce moment-là. Or, quoi qu'il se passe, ces démarches, que ce soit le groupement ou que ce soit nous, si nous récupérions d'aventure, ce que je ne souhaite pas du tout, le bébé, ces démarches, il faudra les faire. Le dépôt d'un permis de construire pour les 400 places de parking, il faudra les faire. Le concours d'architecte, je pense que les Aixois le souhaitent. On a vu la dernière fois que sur un seul projet, et toi aussi d'ailleurs, tu le souhaites. Bon, sauf que ça a un coût. Concours d'architecte avec des grands noms de l'architecture, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, etc. Donc, toutes ces sommes qui auront été engagées, ce n'est pas une pénalité, c'est une manière, si nous n'allons pas au bout, de reprendre à notre compte, au fond, tout ce qui aura été fait en indemnisant ceux qui les auront dépensés. Donc, 3 millions, c'est d'ailleurs une somme, je crois, plafond ou approximative. On ne sait pas quelle somme sera exactement dépensée à ce moment-là. Donc, il me semble pas que ce soit un sujet. Je rappelle par ailleurs que la ville, depuis le départ du projet, je dis que tout ça tiendra pour la ville dans une participation au projet à hauteur de 15 millions d'euros. Donc les 15 millions d'euros, d'ailleurs, ne sont pas non plus du tout certains. On mettra peut-être moins. Ça dépendra de ce que voudront prendre comme espace dans le futur bâtiment ceux qui nous succéderont ici au conseil municipal. Mais en tout cas, on est évidemment très, très loin de ces sommes-là. Il me semble en tout cas que c'est une affaire qui, de ce point de vue-là, qui t'inquiète, est maîtrisée. Quant à savoir si on a pris assez de cabinets de consultants, je pense qu'on en est au cinquième. Cabinet de gens ultra spécialisés, des plus grands groupes français qui se sont mis au travail sur ce dossier. S'il était facile à sortir, probablement il serait sorti depuis très longtemps. Le groupe Vinci, quand même un des monstres français sur le sujet, avait, avec ses bureaux d'études, pu sortir le projet, je pense qu'il n'y aurait pas renoncé après y avoir investi quelques centaines de milliers d'euros. Donc, voilà, je pense que du point de vue des bureaux d'études, on a sans doute les meilleurs de ce qui peut se passer. Sur les questions patrimoniales, Archipat, qu'on connaît bien, qui est un bureau lyonnais, qui est parfaitement respecté de la DRAC, de l'architecte des bâtiments de France, du service de l'archéologie préventive, qui aura son mot à dire dans notre projet, puisqu'on va creuser et qu'on trouvera peut-être des vestiges archéologiques, pourquoi pas, qui va sûrement pas nous faciliter la vie. Je pense que sur les questions patrimoniales, on est assisté des meilleurs. Sur les plans architecturaux, moi, je trouvais que le premier bureau d'études qui a travaillé, qui est le plus gros bureau d'études de Savoie, une centaine de collaborateurs quand même, en architecture, en Savoie, si vous en trouvez d'autres, vous me le dites, à ce niveau-là, en tout cas, de compétences et d'expertise, a fait un travail remarquable. D'ailleurs, c'est sur son travail, sur tout ce qu'il a fait, même si le dessin final ne nous a pas convaincus, c'est sur son travail qu'on a greffé depuis toute la réflexion. Et aujourd'hui, on propose, le groupement propose de lancer un concours d'architectes, probablement avec les plus grands noms de l'architecture français ou européen. C'est-à-dire, ces gens-là sont derrière eux des bureaux d'études fluides, de construction, etc. etc. Donc, je ne pense pas qu'on ait un défaut de bureau d'études. On a simplement un dossier extrêmement compliqué. Mais tu le sais, tu le suis avec nous de manière d'ailleurs parfaitement loyale depuis des mois maintenant, des années. On a un dossier qui est extrêmement compliqué à sortir parce que les enjeux sont multiples. Au fond, il faut arriver à restaurer un patrimoine probablement unique. C'est ce que nous disent les monuments historiques. Unique, en Rhône-Alpes, c'est sûr. En France, c'est très probable. Et peut-être même en Europe, avec cette succession, cette imbrication de bâtiments représentant l'architecture thermale à plusieurs siècles d'intervalle. Donc on a, c'est nous-mêmes. C'est ce conseil municipal qui a pris l'initiative de faire classer la totalité du bâtiment au titre des monuments historiques. Donc on a cette responsabilité, on l'assume, on l'a prise de réhabiliter ce patrimoine. Ça, c'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, la ville ne peut pas les mettre. tu commences déjà à dire qu'avec 3 millions, c'est compliqué. T'imagines un peu avec 50. Et Dominique, lui, il voudrait qu'on prenne même les 80, puisqu'il voudrait qu'on fasse ça en maîtrise d'ouvrage public complète. Pour arriver à financer ces 50 millions d'euros, nous, on a dit on mettra 15 millions dans la grenouille, pas plus. Ça veut dire qu'il faut qu'un partenaire privé ou privé mixte, comme c'est le choix qu'on a fait, arrive à mettre dans cette opération de l'ordre de 35 millions d'euros. Bon, ce n'est pas des philanthropes, l'argent ne tombe pas du ciel. Pour trouver ces 35 millions d'euros, la seule manière, a priori, qui existe, c'est certes de commercialiser les espaces futurs dans ce patrimoine réhabilité, qui sera sans doute d'ailleurs une des plus belles galeries marchandes qui existe, hein, une galerie marchande dans un patrimoine comme ça, ce sera, je pense, magnifique, superbe, une locomotive extraordinaire pour la ville. Mais ça, ça ne suffit pas. Et pour arriver à financer, il faut arriver à construire et à vendre de l'ordre de 180, 200 appartements, quelque chose comme ça. Et sur l'argent qu'ils vont gagner dans les appartements, ils le réinvestissent et ça fait les 35 millions nécessaires et un peu plus, puisqu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Bien sûr, ce ne sont pas des philanthropes. Et donc... voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver... Et on voit bien, quand on dit immeuble de très grande hauteur, les 17 étages, bon, rejet, enfin, en tout cas, doute de beaucoup d'Aixois, quand on dit, ben, on va aller gagner de l'argent en construisant sur le parc de la Crémaillère en bordure du Bois Vidal, non, ne le faites pas. Donc personne n'a envie de payer, en réalité, mais personne non plus se donne les moyens. Donne les moyens au groupement de trouver ces moyens-là, ces moyens financiers. Donc voilà, c'est tout ça qui est compliqué. Arriver à respecter le patrimoine, refaire vivre ce bâtiment, arrêter d'en faire la barrière qu'elle constitue à notre centre-ville, qui fait crever la rue des Bains, qui fait crever la rue d'Abat, qui fait crever la place de la mairie. Faire de ce bâtiment un bâtiment traversant qui vit, y installer du monde, mettre du parking dessous, mettre de la vie à l'intérieur, mais dans un bâtiment qui est pour l'essentiel classé, qui est remarquable, que d'ailleurs la trois quarts des Aixois ne connaissent pas, ils n'ont pas mis les pieds depuis toujours, que certains jamais même, mais quand même ils le défendent et c'est très bien comme ça. Et c'est tout ça qui est compliqué. Et arriver à sortir un geste architectural qui soit, je ne dis pas qu'il convainque tout le monde, parce qu'on ne convaincra jamais tout le monde, mais qui emporte l'adhésion. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'idée d'un concours avec des grands noms, je ne sais pas, moi je préfère tant qu'à faire jouer la préférence locale dans ce genre de truc en faisant travailler les gens du coin, mais peut-être que sur un projet comme ça, qui nous dépasse un peu tous, qu'on n'a jamais fait, il n'y a pas de recul là-dessus, il n'y a pas d'expérience accumulée chez aucun d'entre nous, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et donc, voilà, moi je pense qu'il faut... ce qui est malheureux, c'est qu'on est en train de transformer ce dossier, qui pour moi est une chance historique pour la ville, qui est un truc incroyable, une opportunité fabuleuse, on est en train de le transformer en petite polémique sur des trucs à 3 balles. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je comprends que c'est le jeu de la démocratie locale et que chacun a le droit d'exprimer même des réticences, au fond, personnelles, parce que ça touche la vue de tel ou tel ou parce que ça gêne esthétiquement tel ou tel. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, pour Aix-les-Bains, pour les 20 ans qui viennent, ce dossier va mettre peut-être 10 ans à sortir. C'est une chance inouïe. C'est une locomotive qu'on se met au centre-ville, qui aura son pendant d'ailleurs, Marina, sur le bas de la ville. C'était le deal qu'on avait avec les commerçants, avec une rénovation de la halle du marché, du parking sous le marché ou à côté, etc. Donc avec au fond une espèce de grande galerie, que le centre-ville d'Aix-les-Bains soit une galerie commerciale, mais pas seulement, une galerie patrimoniale à ciel ouvert, permettant à notre ville de reprendre un nouvel essor, quoiqu'elle est déjà plutôt bien de ce côté-là. Mais voilà, donc je pense qu'il faut, sur ces cabinets, sur la consultance qu'on a autour de nous, je ne parle pas des avocats, des notaires, tout ce travail-là n'a pas été fait par Dominique Dor et Marina Ferrari dans leur bureau, hein. Ça a été validé par des cargaisons d'avocats et de notaires. Voilà, je pense que c'est un très beau sujet. C'est vrai que je pense qu'on aura... et nos successeurs, pas mal d'autres rendez-vous, hein, ici au conseil municipal, parce que les choses trappes vont surgir, à mon avis, à chaque coin, chaque fois qu'il va y avoir une étape à faire, il y aura des problèmes qui vont se poser, c'est tellement complexe. Mais je crois que nous, il faut qu'on en soit si on est des ardents partisans de cette ville magnifique qu'on a la chance d'administrer pour quelque temps, je pense qu'il faut vraiment qu'on en soit les moteurs. C'est bien qu'on signe pas d'échec en blanc, c'est-à-dire qu'on soit quand même, qu'on pose des questions, qu'on ait des réticences. Le comité de pilotage, de ce point de vue-là, joue son rôle et est informé quand il y a des étapes un peu qui se franchissent. Mais il me semble qu'au-delà de ça, notre objectif, c'est vraiment d'aller de l'avant et de réussir ce projet magnifique pour la ville. Voilà. Alors, sur le déclassement du domaine public...
Il n'est pas habituel de redemander la parole après...
Vas-y.
Simplement, moi, la délib, à mon avis, elle est mal écrite, parce qu'on ne dit pas que ces 3 millions servent à payer les frais engagés par Bouygues et SAS. On dit que c'est si jamais un des 7 occupants ne peut pas libérer au 30 juin 2020, alors on les paye.
Oui, mais regarde ce qui est marqué. Ces 3 millions, entre parenthèses, correspondent à l'estimation de l'ensemble des dépenses engagées par le groupement de 2018 à 2020. Donc c'est très clair. C'est très clair. Voilà, écoutez, je vous propose de passer au vote là-dessus. Chacun est absolument libre, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Est-ce qu'il y a des oppositions, donc ? Dominique, 2. Est-ce qu'il y a des abstentions, peut-être ? André, 2. Pas d'autres... Tous les autres sont considérés comme ayant émis un vote favorable. Je vous en remercie. Enfin, troisième délibération, Marina.
Ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, à la suite des différents échanges, hein, comme je le disais, mise au point intervenue entre les parties, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à régulariser l'acte authentique de vente en y apportant les modifications suivantes. Concernant la régularisation par tranche, il avait été initialement prévu entre les parties une réalisation de la vente en 2 tranches. Suite aux différents échanges entre les parties, la régularisation de l'acte authentique de vente se fera finalement en une seule fois avec un seul et unique transfert de propriété. Concernant le prix, il a été convenu que le paiement du prix de cession restera inchangé à 1,2 million d'euros, mais sera différé et interviendra au 1er décembre 2020. Concernant le désamiantage, il avait été convenu initialement que la commune s'obligeait à prendre à sa charge le coût du désamiantage des biens vendus jusqu'à la somme de 500 000 euros hors taxe, montant au-delà duquel les parties s'étaient engagées à se rencontrer pour en discuter. Après réalisation de l'ensemble des diagnostics, le coût du désamiantage a été estimé à 2 500 000 euros hors taxe. Il est désormais convenu que la commune prenne à sa charge l'intégralité de ce coût, estimé à la somme de 2,5 millions hors taxe, et assume elle-même la direction des travaux dès à présent et jusqu'à la fin des opérations nécessaires. Après la cession, la commune conservera donc la direction des travaux de désamiantage et leur maîtrise d'ouvrage jusqu'à leur entier achèvement et leur réception, le groupement lui laissant ainsi tout pouvoir pour intervenir. Il convient de noter que ces travaux font l'objet d'une demande de subvention que j'indiquais tout à l'heure au titre du FEDER, dossier déposé en août 2016 et en cours d'instruction qui pourra aller donc jusqu'à 50% du montant du désamiantage. Concernant la libération des lieux, le groupement a renoncé à toute condition suspensive relative à la libération des lieux. La commune s'engage pour sa part à libérer les locaux hébergeant certains services conformément à ce qui a été dit dans la délibération que vous venez d'adopter relative à la désaffectation. Jusqu'au 30 juin 2020, la commune est autorisée par le groupement à poursuivre les conventions d'occupation précaire, encaisser les loyers auprès de tous les occupants du bâtiment. En contrepartie, elle paiera les charges en totalité, à charge pour elle de refacturer ses frais sur tous les occupants en application de la convention de répartition des charges préexistant avant la cession. Concernant les obligations particulières, la servitude non altius tollendi, il convient de rappeler que la hauteur du projet est une condition essentielle et déterminante du consentement de la commune à la présente vente. À ce titre, les termes de la promesse unilatérale de vente, régularisée le 22 juillet 2016, obligeaient le bénéficiaire à consentir à la commune une servitude non altius tollendi dans la limite du gabarit de l'immeuble de la Reine Hortense. Le groupement va lancer un concours d'architectes dans le respect des règles actuelles du PLUI relatif au projet. À l'issue de ce concours, l'avis de la commune sera requis par le groupement sur le choix du projet. Cet avis donc, sera un avis conforme. Par avis conforme, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le groupement ne pourra décider que conformément à l'avis de la commune qui est obligatoire. S'il est défavorable à la décision projetée, le groupement ne pourra que renoncer à la décision. Pour le cas où le groupement, après avis de la commune, ne souhaiterait pas donner suite à l'avis conforme de la commune, la vente serait alors résiliée et le bâtiment reviendrait à la commune. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la promesse unilatérale de vente en date du 22 juillet 2016 passée entre la commune d'Aix-les-Bains et le groupement SAS Développement Bouygues Immobilier, vu l'avis de France Domaine, le conseil municipal est donc appelé à approuver les termes de la réitération de la promesse unilatérale de vente et de l'acte authentique de vente dans laquelle seront listées les modifications que nous avons évoquées. Charge le maire ou son représentant d'accomplir plus généralement toutes les formalités nécessaires à l'aboutissement de cette session.
Merci Marina. Alors, troisième et dernière délibération, débat, Dominique, Serge, Dominique.
Après 2 années de péripéties qui ont suivi la signature précipitée d'une promesse de vente, motivée à l'époque par la majorité municipale par une nécessité d'agir vite, pour protéger un patrimoine en péril, C'est un projet de vente totalement remodelé qui nous est présenté à la va-vite ce midi durant la pause déjeuner et qui remet en cause en partie ce qui a été délibéré en juin 2016. Cela révèle le niveau de débat et de démocratie dans ce conseil municipal. Projet de vente au même groupement, mais qui repart sur des bases nouvelles et parfois contradictoires avec la promesse de vente initiale. On peut même se demander à quoi ont servi ces deux années. Elles sont la preuve du manque de sérieux dans la préparation de ce dossier, il est vrai, très compliqué. Cela ne fait pas honneur à notre municipalité. Cette évolution révèle notamment comment, désirant aller trop vite, on patauge, on fait des erreurs et finalement rien n'avance correctement. N'aurait-il pas fallu écouter un peu plus la minorité et choisir la concertation avec la population? Il est bon aujourd'hui de faire quelques rappels. Le projet de l'achat du site à l'État en 2010 a été motivé par une volonté de maîtrise foncière du centre-ville afin de contrôler son développement, installer des services publics, des activités économiques et culturelles. Il avait alors été soutenu par tous. Il n'était pas question à l'époque de revendre l'ensemble du site. Dès la réalisation de l'achat en 2012, apparaissent les problèmes liés à l'amateurisme et aux improvisations de la majorité municipale, dont le premier est l'engagement par le maire de prendre à sa charge le désamiantage sans réflexion complète ni sur son coût ni sur l'avenir du site. Pourquoi ne pas avoir fait une étude préalable à l'achat? Premier échec, l'appel à manifestation d'intérêt lancé en mars 2012, donc il y a déjà 6 ans, avec une filiale de Vinci qui s'est déclarée infructueuse au bout de 4 années. Puis, se tournant en mars 2016, avec l'annonce de la vente des bâtiments au groupement Bouygues SAS, annonce faite à la presse avant même que le conseil municipal ne soit informé. Le groupement deviendrait alors propriétaire, aurait comme responsabilité de rénover et de construire 2 tours de logement. Tout était présenté comme ficelé, avec l'urgence de signer dès juin-juillet pour le dépôt de permis de construire de la première phase avant la fin 2016. Pourquoi n'avoir pas fait, là encore, appel à des projets et une consultation publique avant de prendre une décision? La protestation de la population fut telle que malgré la décision de notre maire de modifier le PLU en 2015 pour permettre une hauteur de 17 étages, une limite fut fixée à la hauteur de la reine Hortense. On connaît alors ce qui arriva. Le cabinet d'architectes qui jette l'éponge et l'école Pierrefitte qui refuse d'acheter la partie sud, pourtant présentée comme acquis dans la promesse de vente. Et puis plus rien pendant plus d'1 an. Pas de réponse à nos régulières questions sur le sujet. Tout le monde connaissait dès le début les difficultés et le coût du relogement des locataires des bâtiments. Ce n'est que ces dernières semaines qu'une partie semble avoir été résolue. Tout le monde pouvait supposer le coût exorbitant de dépollution d'un pareil site dont le montant réel a été caché pendant des années. Restauration nécessaire de la toiture des thermes Pellegrini à 800 000 euros, désamiantage à au moins 2,5 millions d'euros, indemnité de départ d'indemnisation pour le CHS de 700 000 euros, nécessité de rachat de locaux pour réinstaller les services publics, musées, office du tourisme. D'un côté, des millions à la charge de la commune, de l'autre, simplement 1,2 million de recettes, qui en plus ne seront versées que 2 ans plus tard. Il est temps d'arrêter cette fuite en avant incontrôlée. Face à un tel gouffre financier, pour celui qui défend l'idée de la maîtrise d'un budget communal comme celui d'un bon père de famille, s'impose une reconnaissance de ses erreurs qu'a cautionné par son silence l'ensemble de la majorité municipale. Cela se traduirait dans beaucoup de municipalités par la démission de l'exécutif responsable de ce naufrage.
Dans vos rêves.
Eh oui. Après 4 ans d'aisance, 4 ans, quelques mois de précipitation, 2 ans de piétinement, Il s'agit de repartir sur de bonnes bases qui commencent par l'arrêt immédiat du processus de vente.
C'est sûr que ça va aller plus vite que ça.
Et c'est pas moi qui est responsable du retard de près de 10 ans.
Il faut assumer vos propositions.
Vous avez dit tout à l'heure qu'on allait sûrement attendre, je ne sais pas combien, encore 10 ans pour voir le projet de se réaliser. Donc ça veut dire qu'on peut très bien décider pendant quelques mois de réellement débattre avec la population. Nous devons revenir à une totale maîtrise communale sur le patrimoine et l'aménagement du centre-ville. Les citoyens doivent être réellement informés et consultés sur un projet d'une telle ampleur. Nous devons pour cela partir et satisfaire les besoins de la population plutôt que de laisser un promoteur aménageur décider de ce qui est le plus rentable pour lui. Ce n'est pas ce qui nous est proposé ce matin, ce midi, maintenant. Bien au contraire, vous persistez dans l'erreur, celle de la logique de la privatisation de l'avenir des termes. Et vous revenez en même temps sur vos promesses de 2016, sur certaines de vos promesses de 2016. Donc nous demandons que chaque conseiller décide en son âme et conscience de son vote plutôt que de suivre les consignes de votre groupe afin d'arrêter ensemble les dégâts.
Merci. Dominique. Serge. Pardon ? Non, je préfère accumuler les coups avant de les rendre. Serge.
Alors moi, il ne s'agit pas tout à fait d'un coup.
Ah bah tant mieux.
Voilà. Parce que le coût financier est suffisant. Non, moi je voulais simplement dire qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a été mené d'une manière aléatoire, parce qu'en 2001, quand j'étais premier adjoint, jusqu'en 2007, je suis allé tous les mercredis en face avec le directeur technique, avec le directeur financier, pour essayer de résoudre le problème que les termes nationaux n'arrivaient pas à résoudre. On était en rendez-vous avec Jean-François Michel, le directeur, tous les mercredis matins là-dessus. Bon, on a intégré nos services pour aider un peu. Au départ, c'était pas nous, c'était les termes nationaux. Non, moi j'en viens surtout, parce que j'ai quand même un petit hic, c'est que j'ai eu pendant 20 ans en contrat d'entretien cet établissement, ce grand immeuble, je l'ai suivi pendant 20 ans. Donc je connais beaucoup de soubresauts et tout ça. Je connais ensuite beaucoup l'amiante, puisque j'ai été dans une entreprise où Christiane Mollard était aussi, où on était entouré d'amiante puisqu'ils fabriquaient des fours industriels.
Non, c'était hier.
Non, mais je suis le doyen, donc c'est de mon expérience que je parle. Voilà. Et donc, connaissant tout ce qui se passe, je me suis quand même un peu documenté parce que je suis pour la refection des termes. La preuve, c'est que j'y suis allé pendant 7 ans. La preuve, c'est que j'ai suivi. Hein. Mais seulement, j'ai beaucoup de gens qui me questionnent dans la rue, me disent pourquoi. Bon, la question de la hauteur, passons, c'est un problème d'architecture. Mais cette question de désamiantage me cause problème parce que je suis quand même un peu, bien n'étant pas un spécialiste de dernier cru là-dessus, je suis un spécialiste là-dessus. Hein. Et je connais donc tout ce qui est les tuyaux et tout, je peux vous dire où il y a de l'amiante, où il n'y en a pas presque. Et alors donc je me suis documenté, je ne vous cache pas que j'ai passé ma nuit pour être sûr de ce que j'allais avancer. Hein. Ouais, parce que, écoutez, vous n'avez qu'à regarder le titre. Hein. Le titre c'est « Quelles sont nos obligations ?» Hein. Vous le trouvez sur Internet. Et donc le problème est le suivant, c'est que qu'est-ce qui va provoquer le plus d'amiante ? Ce n'est pas de traverser le couloir en ce moment, c'est de déconstruire. Et la loi est formelle, c'est le donneur d'ordre qui doit financer ça. Ce n'est pas le vendeur, c'est le donneur d'ordre. Le vendeur, lui, est tenu de faire un repérage. Hein, c'est le décret du 9 mai 2017, c'est pas vieux, hein, sur le taux d'amiante, s'il dépasse 10, le point de 10, c'est des épinettes d'amiante. À ce moment-là, il est en danger, il faut faire des travaux tout de suite. Mais le repérage est la chose que l'on doit fournir à tout acheteur, Même sur votre maison aujourd'hui, c'est obligatoire. Bon. Maintenant, si la maison n'est pas démontée, si rien ne se fait dans la maison, il est évident que les frais, vous n'avez pas à les faire en vendant votre maison. Vous la vendez un peu moins cher parce qu'il aura des travaux à faire, ça c'est sûr. Ce que certainement a valu la faible valeur des 1 200 000 que nous a vendu l'État, parce qu'il savait très bien qu'on n'y arrivait pas avec leurs termes, donc on n'y arrive pas mieux. Hein? Donc moi aujourd'hui, ce qui choque un peu les gens, c'est ces fameux 2,5 millions hors taxes qui vont venir nous taxer par la suite. J'estime que quand on va faire 200 logements et 400 places de parking et tout, 10 000 euros de plus à chaque logement fait qu'ils pourraient payer ces frais-là et ne pas imposer la mairie qui pédale dans la choucroute depuis des années pour faire ce truc-là. Donc, essayer d'avoir un arrangement. Le deuxième point, c'est si on n'a pas cet arrangement, eh ben qu'ils payent d'abord à la valeur de 1 200 000 et qu'à la fin, on leur donne le 1 300 000. Mais pas qu'à la fin, on leur donne le 1 200 000 et qu'avant, on ait fait des frais de 1 500 000. Voilà, c'était simplement un petit problème technique hein, parce que je n'ai pas pu assister à toutes les réunions du comité. J'ai fait que la dernière.
Merci Serge. André.
Oui. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce n'est pas une question à 3 balles. Hein. C'est des millions hein, avec lesquels on jongle. Certes, on a acheté 1 200 000 en 2010. On va le vendre 1 200 000 en 2020, que fait-on de tous les travaux qu'on a investis? Les travaux qui vont rester pérennes pour Bouygues, notamment la toiture. On aurait pu au moins valoriser celle-là, comme on a valorisé les travaux que Perfit, je l'ai dit tout à l'heure, a fait pour lui consentir un loyer modéré. Et là ça ne joue pas en notre faveur. On a fait voter aussi un coût maximal, il n'y a pas longtemps au conseil municipal, hein, de 500 000 euros, au-delà duquel on aurait de nouveau une discussion avec Bouygues SAS. La discussion a dû valoir son pesant de cacahuètes, hein, parce que ce n'est pas une discussion qu'on a eue, c'est une capitulation, hein, puisque l'intégralité des 2,5 millions hors taxes nous incombe. Alors après, j'aurais aimé que, si c'est bien le vendeur qui paye le désamiantage, au moins que ce prix de vente soit un tout petit peu majoré au-delà de 1,2 million. De façon à quand même rassurer les finances aixoises qu'on dit toujours opprimées par les baisses, et c'est vrai, des dotations des différents gouvernements qui se succèdent. Moi, j'espère tout simplement qu'une chose, c'est que quand toutes ces difficultés seront faites, qu'on aura un joli truc en face. Hein. Mais je suis pas passéiste, mais on s'est quand même trompé de terme à acheter, quoi. Ceux d'en haut, que quelqu'un a acheté pour 3 millions et qui rapporte bon an mal an 2,5 millions par an, on aurait pu les acheter. Et puis celui-là en face, là derrière mon dos, 1,2 million, c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau pas très sympa hein, qu'on nous a fait. Hein. Voilà. Merci de votre attention. J'en ai fini.
Merci pour André. Marina, pour quelques éléments de réponse.
Oui, merci, monsieur le maire. Bon, alors, Dominique Fier, déjà, je m'étonne parce que votre discours est assez contradictoire. Vous nous dites, clairement, vous nous délibérez de manière précipitée, il faut aller vite, 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 vite. Et dans le même temps, vous nous dites que de temps perdu, plus de 6 ans. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais il me semble qu'on a plutôt justement...
Vous c'est le résultat de votre mauvaise gestion.
Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, je vous prierai d'en faire autant. Je vous remercie. 6 ans de travail, 6 ans effectivement de difficultés que nous avons essayé de lever les unes après les autres, un travail également de démocratie locale, même si peut-être la façon que nous avons eu de la conduire ne vous convient pas, mais nous avons quand même écouté la population par 2 reprises, et c'est heureux pour la 2e fois sur le terrain de la crémaillère. Voilà, donc moi je ne peux pas cautionner le fait que vous nous disiez aujourd'hui qu'on travaille dans la précipitation et que c'est de l'amateurisme. Non, ça je le réfute complètement, et d'ailleurs dans votre discours vous le reconnaissez, puisque vous pointez vous-même la chronologie, donc vous savez très bien qu'on n'est absolument pas dans la précipitation. Je vous remercie de ne pas m'interrompre. Concernant le coût, c'est un gouffre financier. Si on prenait votre option avec un coût à la charge intégrale de la ville, 50 à 60 millions d'euros minimum pour le bas, ça ne serait pas un gouffre pour la ville? Là, on s'engage sur... Mais non, mais c'est une maladie hein, d'interrompre les gens comme ça. C'est en tout cas un manque de politesse évident, je me permets de vous le dire. Nous, on s'engage à hauteur de 15 millions d'euros, comme l'a rappelé monsieur le maire, et à l'intérieur de ces 15 millions d'euros, il y aura des services publics que nous réclamons tous, vous y compris, de manière insistante, parce que je pense que notre ville en a besoin. Bibliothèque, médiathèque, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, relogement en lien avec l'agglomération de l'Office du tourisme, déménagement du musée lapidaire, protection du patrimoine qui nous reviendra, les ruines romaines qui sont quand même pas un détail historique sur notre ville, les cabines de bain de la Gacan, les circulations dans l'atrium. Donc, et puis des services publics qui pourraient prendre place dans ce bâtiment. Donc, et la salle de sport, bien évidemment, qui est prévue également dans le projet. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'aujourd'hui on vend pour ne rien récupérer du tout dans le domaine public de la commune. Pour répondre à André Gimnèse, et d'ailleurs cette observation est aussi valable pour vous, Monsieur Fille. Moi, je m'étonne quand même d'entendre que on a fait tout ça en cachette, sur le désamiantage, on n'a rien décidé. Vous étiez quand même tous deux présents au comité de pilotage et vous avez tous deux accepté, ou en tout cas vous n'avez pas manifesté une opposition délirante lors de nos derniers comités de pilotage sur le problème du désamiantage. Voilà. Vous avez posé la question, mais enfin, vous auriez pu vous y opposer formellement. J'entends aujourd'hui qu'on est dans une opposition. Moi, je ne vous ai pas entendu lors du comité de pilotage. Mais c'est un grossier personnage, en fait. Hein.
Allez-y, voilà. Madame Ferrari.
Merci, monsieur le maire. Voilà. Alors, sur les 2,5 millions de désamiantage, il me semble, c'est mon point de vue, donc je l'expose, que sur un projet qui, comme l'a rappelé monsieur le maire, est d'une importance capitale pour le patrimoine de la ville, pour son histoire, pour sa culture, pour demain son attractivité économique. Il me semble que si la ville décidait de s'engager à hauteur d'une dépense supplémentaire de 2,5 millions d'euros, il me semble que le jeu en vaut la chandelle. J'aime pas bien cette expression, mais en tout cas, ce bâti mérite que l'on mette un peu plus d'argent pour enfin réussir à le réhabiliter. On a rappelé tout à l'heure qu'on avait une demande aujourd'hui de subvention qui est en cours, donc qui viendrait, qui pourrait venir diminuer largement ce coût. Et puis, André Gimnèse l'a rappelé tout à l'heure, c'est un bâtiment qu'on a acheté 1,2 million à l'époque, ce qui, somme toute, au regard du nombre de mètres carrés, n'était pas très cher. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on aurait peut-être dû se retourner contre l'État et leur dire il faut payer le désamiantage, etc. On sait comment les discussions sont difficiles avec l'État, et aujourd'hui, nous aurons bien besoin de l'État pour nous accompagner dans ce dossier de demande de subvention. Sur les 3 millions d'euros d'indemnité, je crois que vous n'avez pas bien compris. Le maire vous a réexpliqué que c'était aussi pour, le cas échéant, indemniser le groupement des dépenses qu'il aurait pu faire, mais les 3 millions d'euros seraient dus si on ne libérait pas la totalité des 1626 mètres carrés sur lesquels nous avons délibéré précédemment. C'est pour l'enveloppe globale. Donc, charge à nous de libérer ces espaces, sachant que pour la plupart, comme vous l'avez vu, c'est déjà le cas où ça va être en passe de le faire. Donc, il nous restera quelques services à reloger et nous avons presque 2 ans pour le faire. Donc, soyons efficaces et je pense que nous serons en mesure d'y arriver. Et puis ensuite, j'ai un peu envie de poser une question qui est un peu, provocatrice, mais...
Est-ce bien nécessaire ?
Oui. Quel est le prix, pensez-vous, du patrimoine que nous avons en face? Moi, je pense que ça n'a pas de prix. Parce que des ruines romaines du IIe siècle, des cabines de bain remarquables, des thermes pellegrini somptueux. Je pense qu'il y a beaucoup de villes, aujourd'hui en France ou en Europe, comme l'a rappelé le maire, qui nous jalousent ce patrimoine. Et je pense que c'est de notre responsabilité d'y investir massivement pour le sauvegarder.
Merci Marina. Peut-être un petit mot pour finir et clôturer nos débats. Thibault. Thibault a la parole pour l'instant.
Merci Monsieur le maire. Bonjour chers collègues. Bonjour aussi au public venu nombreux aujourd'hui. Et je crois que ça nous montre que les critiques sur la catimini de ce conseil municipal un midi sont loin d'être vraies. Au contraire, c'est une heure qui facilite aussi pour beaucoup de monde la disponibilité, notamment pour les citoyens, qui plus est un vendredi. Je me permets de prendre la parole, monsieur le maire, juste avant vous et après, madame la deuxième adjointe, pardonnez-le-moi, parce que dans les propos de monsieur Fier, nous avons, chacun d'entre nous ici, conseiller municipal, été mis en cause. Puisque, vous l'avez dit, paraît-il notre silence, me reproche de trop parler d'habitude, mais paraît-il notre silence cautionner un certain nombre de choses. Je voulais dire 2-3 éléments là-dessus. Avant ça, simplement mettre en avant quelque chose que Dominique rappellera peut-être. Sur la question du désamiantage, on était aussi un certain nombre à se poser des questions en amont, notamment de la responsabilité de l'État qui nous a vendu les bâtiments en l'État, c'est le cas de le dire, sans aucune entreprise et donc sans aucune dépense de désamiantage. Le maire le rappellera sûrement. Aujourd'hui, on pourrait, d'une certaine manière, se retourner vers l'État dans des procédures extrêmement compliquées. On fait le choix de dire que l'État peut être un allié fort avec nous pour la demande de subvention du FEDER, qui peut s'élever jusqu'à 1,25 million d'euros. Et donc, je crois que c'est aussi important de noter qu'il y a des questions, qu'il y a des échanges, qu'il y a des discussions, notamment en comité de pilotage, et qu'il y a des travails, des réponses. Alors, vous avez évoqué un point essentiel qui est la maîtrise communale. La question de la maîtrise communale. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire s'il y a maintenant 6 ans, un peu plus d'ailleurs, nous avions fait le choix de ne pas nous porter acquéreur de ce bâtiment. Dans quel état serait-il ? Croyez-vous que quelqu'un serait venu l'acheter ? J'invite tous les gens qui sont aujourd'hui dans la salle et tous les Aixois. Nous, les conseillers municipaux, nous le connaissons, ce bâtiment. Nous le visitons régulièrement. Mais ce n'est pas nécessairement le cas des Aixois. À aller voir. On a les moyens d'aller voir. Il y a des visites organisées. Et je vous invite à y retourner quelques mois plus tard et à voir, jour après jour, semaine après semaine, l'état de délabrement de plus en plus important de cet endroit. Je vous invite à y aller. Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. Et ça me permet de revenir sur la demande d'André Jiménez tout à l'heure d'un vote à bulletin secret. Moi, je suis contre le vote à bulletin secret aujourd'hui pour une raison simple, c'est que ce projet majeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, il va, le maire l'a très bien dit, nous suivre pendant des années, des dizaines, en tout cas au moins une dizaine d'années. Et si, comme malheureusement parfois dans vos propos, on a le sentiment, monsieur Fier, que vous souhaitiez que ça se passait mal, on sera tous responsables. Et moi, aujourd'hui, comme l'ensemble de mes collègues conseillers municipaux, j'ai envie d'être responsable. J'ai envie qu'il y ait mon nom et ma signature au bas du papier et ma responsabilité de dire oui, oui, aujourd'hui, je suis favorable à ce qu'il y a. Et je prends le risque demain, si on vient me dire « Regardez, ça ne s'est pas bien passé », d'assumer. D'assumer. Et nous assumerons. Et la deuxième manière que nous avons d'assumer, pour assumer cette maîtrise communale, c'est quand même cette grande nouveauté du jour. C'est ce vote conforme qui va revenir dans les prochaines semaines. C'est nous, conseil municipal, représentants des Aixois, légitimes et légaux, qui allons, en finalité, décider ce qui va se passer dans ce bâtiment. Vous pouvez voir ce que vous voulez sur la cession foncière, les autres. C'est nous, ici, qui allons décider ce qui va se passer dans ce bâtiment. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. Je souhaite une bonne journée à tous.
Merci, Dominique.
Oui, monsieur Guigues, c'est vrai que vous connaissez bien le dossier, puisque c'est vous qui l'aviez en charge dans les années 2012. Et j'ai vu certains de vos comptes rendus. Vous avez fait quelques, en très peu d'informations a été donnée au moins durant les conseils municipaux. J'ai pas trouvé vraiment grand chose. Pour ce qui est de l'importance du site, je suis comme vous. Je pense que c'est un site très important. Et comme je suis entièrement d'accord avec la fin de l'intervention de Marina Ferrari, c'est justement pour ça que je ne suis pas pour laisser un promoteur aménageur décider à la place des citoyens. Eh oui. Vous, ce que vous proposez, c'est de vous débarrasser d'un dossier qui est vraiment très, très, très...
Ça, vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux dans votre intervention ?
Non. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est pas que, qu'on voudrait...
Non, mais on vous a compris, M. Fier.
Une nouvelle... Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai... Vous parlez du coût. Je pense qu'il y a des moyens de récupérer de l'argent. D'abord, auprès de l'État. C'est les subventions, mais ça peut être aussi...
C'est sûr que l'État a les moyens.
Il peut toujours en avoir. Ça dépend des choix qu'il fait. Mmh. Et il y a également, je crois que c'est Marina Ferrari qui l'a rappelé, l'intérêt des Aixois, mais au-delà d'Aix, dans toute la France et même ailleurs, un intérêt sur le site. Un site remarquable, sûrement au niveau national. Mais pourquoi ne pas organiser ce qui se fait dans certains coins, une souscription citoyenne qui permet de récupérer quelques millions qui pourrait nous manquer. Dans le coût des 85 à, 5, à 100 millions...
Merci.
Pardon ?
Merci.
Non, c'est un choix volontaire. C'est un choix volontaire selon ses... Alors, c'est vrai, selon ses capacités, mais ça se fait très souvent. Très souvent. Bien. Non ?
Merci.
Sûrement pas.
Merci, merci. Monsieur Guy, vous n'avez pas la parole. Alors, Madame Ferrari, vous rajoutez un petit mot, puis moi, j'aimerais quand même bien dire 3 trucs, quoi. Bon, éventuellement... Oui.
Marche plus. Très rapidement, alors oui, on peut toujours solliciter l'État, c'est bien ce que nous avons fait d'ailleurs, mais je vous rappellerai juste, bon, déjà au-delà du fait qu'aujourd'hui l'État a plutôt tendance à nous sucrer des subventions et des dotations. Quand même, c'est un fait. En remettre plus, c'est de son ressort et de sa décision, et je crains qu'elle ne soit guère positive. Mais bon. Mais nous sommes quand même allés solliciter l'État au titre de la conservation du patrimoine et de la DRAC notamment. Je vous rappellerai juste que le budget régional Auvergne-Rhône-Alpes pour la conservation des monuments historiques est de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros et qu'on nous avait dit qu'on pourrait en flécher 2 millions sur les thermes. Donc on est très loin du compte, mais nous faisons les démarches, monsieur Fier, nous les faisons. Et par ailleurs, l'idée des souscriptions publiques, pourquoi pas ? Je porterai juste à la connaissance que nous avons un autre monument en péril sur la ville, qui est le Bernascon, qui est en phase de reconstruction, et c'est heureux. Et la copropriété a essayé de lancer une souscription publique pour la réfection de la terrasse. Ils ont été obligés de la clore parce que malheureusement, elle n'a pas été suivie d'effet. Alors on peut toujours essayer, mais de là à aller récolter 60 millions d'euros, je pense que la tâche est un peu relevée.
Merci, mes chers collègues. Ce débat est très intéressant, quoique il est l'illustration même de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en train d'un dossier fabuleux de faire une série de polémiques plus ou moins justifiées. Je vais reprendre ce qui a été dit par Dominique Fier, par exemple, qui est dans, comme l'a dit Marina. Dominique, vous êtes en pleine contradiction vous-même. C'est incroyable. Grosso modo, vous nous dites ça a été fait trop vite, machin. Voilà, 6 ans ont passé et vous nous dites faut tout arrêter pour recommencer à zéro. Bon, c'est juste, si vous dites dans votre propos, tout est le contraire de tout immédiatement. Puis sur un deuxième sujet, vous dites, ça va être un gouffre financier. On parle de 2,5 millions sur le désamiantage. Et il faut que ce soit la ville qui le reprenne à son compte. 50 millions d'euros, que nous n'avons pas. Donc les gouffres financiers, il ne faut pas rigoler, Dominique. Je comprends qu'on s'abrite derrière la polémique permanente, l'opposition systématique, pourquoi pas un peu de dogmatisme aussi, mais il y a juste un moment où il faut être pragmatique. On a un bâtiment à réhabiliter, on est tous convaincus qu'il faut le faire. Et s'il y avait une deuxième méthode, je pense qu'elle serait apparue depuis le temps que nous tournons autour de ce dossier. Puis d'ailleurs, si c'était aussi simple, je pense qu'à l'époque, l'État, dont vous êtes un fervent défenseur, puisque vous êtes le retour sur la puissance publique et la nationalisation des choses, l'État l'aurait fait. Oui, sauf que l'État ne l'a pas fait. Voilà. Parce que l'État n'a pas pu le faire et l'État n'a pas su le faire. Parce que ce n'est pas son métier et ce n'est pas le métier de la collectivité non plus. Donc voilà, c'est triste. Et puis un dernier point sur lequel je voudrais insister, parce que chaque fois vous nous faites à peu près le coup, grosso modo, tous les conseillers municipaux qui sont ici sont des imbéciles qui ne regardent pas les dossiers et qui votent comme le maire, et vous seul avez la vérité révélée et votez en votre âme et conscience. Les gens qui sont ici ne sont pas plus idiots que vous, ils n'ont pas moins travaillé que vous, et ils ont aussi la volonté de défendre les intérêts de la ville autant que vous et avec le même âme et conscience. Ce serait bien qu'une fois pour toutes, vous essayiez d'arrêter de polémiquer sur ce sujet. L'intervention de Serge était plus technique, d'une certaine manière, sur le fait de savoir qui doit prendre en charge le désamiantage. Et au fond, tu as terminé ton intervention en disant il aurait fallu trouver un arrangement. On est exactement dans ce que tu souhaites. C'est-à-dire que, a priori, dans les rapports entre un acheteur et un vendeur, c'est le vendeur qui doit vendre un bien dépollué. C'est comme ça que ça doit se passer en général. Peut-être que tu as néanmoins raison sur l'idée que quand l'acheteur déconstruit lui-même, etc., bon, là, il y a peut-être une idée. Mais ce que nous avons fait, c'est juste ce que tu souhaites, c'est-à-dire trouver, comme on l'a fait d'ailleurs avec l'État, un arrangement. Je rappelle qu'on a acheté ce bien 1,2 million euros, c'est-à-dire 24 euros du mètre carré construit. Essayez de trouver à 24 euros du mètre carré construit le moindre local à Aix-les-Bains. Bon courage, les amis. Ça n'existe pas. Pourquoi on l'a acheté à 24 euros ? Je le disais tout à l'heure à la journaliste de Radio France, France Bleu. Parce que on savait bien que c'était pas cher. Mais on savait aussi, je crois l'avoir déjà dit 10 fois, qu'on achetait que des enquiquinements, que des charges, que des problèmes à venir. Tu étais bien placé à l'époque pour le savoir et tu nous as d'ailleurs beaucoup aidé. Mais parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. À l'époque d'ailleurs, Dominique, si ça avait été le cas, l'État qui sait vendre son patrimoine aux plus offrants, il y a même une agence spécialisée de l'État qui fait ça, l'aurait fait. Sauf qu'il n'y avait personne pour le racheter. Donc 1,2 million, c'est un prix qui n'a pas de sens, c'est un prix symbolique et c'est un prix, en effet, comme tu l'as dit Thibault, en l'État, en sachant qu'on achetait surtout beaucoup d'enquiquinements à venir. Et au fond, avec le groupement, c'est un peu la même chose. Les services fiscaux évaluent ce bien au prix où il avait été évalué à l'époque, c'est ce qu'a dit Marina sur la vie des domaines, à 1,2 million parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Ça vaut combien, un truc comme ça ? Qui le sait ? Combien ça vaut ? Dites-moi, donnez-moi un peu un prix qui est prêt à acheter en face et à quel prix ? Très intéressant de savoir. Personne et à aucun prix. Personne et à aucun prix, Dominique. Donc si ce n'était pas la ville qui, à l'époque, avait pris ses responsabilités,
le bâtiment en question, il serait probablement toujours propriété de l'État, la toiture de Pellegrini se serait effondrée, et compagnie, etc., etc. Donc il faut arrêter le délire. Et c'est pour ça que je dis qu'on est en train d'abîmer ce dossier qui est un dossier superbe. Oui, il y a des difficultés, c'est sûr. On s'est donné un plafond de dépenses maximum dans les, au-delà de laquelle la ville n'ira pas. On est très largement dans ce plafond aujourd'hui. Et donc, tout le reste procède en effet d'un arrangement. Et au fond, l'arrangement, il est basé sur quoi ? Il est basé sur le bilan de promotion de l'opération que nous avons en distribution publique, les uns et les autres, depuis le départ. Si tu vends plus cher à l'origine ou si tu prends moins de charges de dépollution, tu rends le dossier plus compliqué à sortir, parce qu'au lieu de faire 150 appartements pour équilibrer l'opération, il va falloir en faire 180, etc. Donc tout est possible, sauf que tout ça se répercute, puisqu'on est sur une affaire en charges et en dépenses qui doivent s'équilibrer et laisser un bénéfice à l'entreprise à la sortie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on peut ergoter à l'infini sur ces sujets-là, qui, en effet, André, c'est pas dérisoire. Mais ce que je veux dire, c'est que, et Marina l'a très bien dit, dans un dossier qui est un dossier à 100 millions d'euros, qui est un dossier décisif pour la ville, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'on arrive à le sortir avant que le bâtiment se soit définitivement tombé en ruine. Et puis, c'est un peu le même sujet, au fond, André, tu étais sur la même question, sur l'évaluation du désamiantage, 500 000, 2,5 millions. En réalité, à 500 000, on ne savait pas du tout, il n'y avait pas de chiffrage qui avait été fait. C'est comme ça, c'était une idée un petit peu, on savait qu'il y avait du désamiantage à faire, mais qui parmi nous savait à combien il allait s'évaluer ? Personne, personne. Et d'ailleurs, 2,5 millions, on n'est pas du tout sûr que ce soit 2,5 millions l'enveloppe finale du désamiantage. Ils ont fait 1000 points de prélèvement dans le bâtiment pour mesurer où il y avait de l'amiante et où il n'y en a pas. Mais peut-être que c'est le 1001e point qui aurait révélé une présence supplémentaire encore. Donc c'est, tout ça, on est dans un équilibre de départ. L'objectif, c'est de sortir l'opération, d'arriver à la sortir sans que la ville soit engagée au-delà de ce qu'elle peut faire. Et ce qu'elle peut faire, ce n'est pas 50 millions, Dominique, c'est 15 millions au grand maximum. Tout ça a été chiffré, arbitré avec notre direction financière, avec nos conseils. Ce n'est pas tombé du ciel pour rien. La vérité, c'est que dans cette salle, il y a beaucoup d'entre vous qui sont là parce qu'ils sont inquiets sur la question de la hauteur du bâtiment. Parce que je vois un certain nombre avec lesquels on a échangé la première fois. Je veux juste dire une chose. Si on avait maintenu la servitude telle qu'elle était prévue dans le compromis, on ne serait pas aujourd'hui réunis ensemble. Parce que le groupement n'aurait pas concrétisé l'achat. Pourquoi ? Parce que la hauteur de Reine-Hortense, c'est l'équivalent de 10 étages à peu près. Si, je dis n'importe quoi, Ricardo Bofill ou son cabinet nous sort un projet à 11 ou 12 étages, fabuleux, super, qui convainc tout le monde. Ah ben, on dira non, on ne peut pas parce que c'est 10 maximum. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Et donc, il a fallu, et c'était la décision, tu te rappelles, André, que tu as d'ailleurs acceptée du comité de pilotage, de dire, ouvrons, il va y avoir un concours d'architectes, ouvrons les possibilités, que des vrais, des grands, des grandes signatures, qui sont peut-être pas meilleures d'ailleurs que les signatures locales, mais qui sont respectées, connues pour ça, fassent des projets. Deux projets alternatifs. Un avec une hauteur limitée, hauteur des terres, et l'autre plus libre, jusque dans les possibilités du PLU. On verra bien. Et moi, je dis simplement à tous ceux d'entre nous qui sont ici autour de la table et qui donnent des leçons, Dominique, que l'heure de vérité, elle est devant nous. C'est chacune et chacun d'entre nous qui auront la responsabilité de dire à l'issue du concours d'architectes, oui, on prend, quitte à se faire des pas amis dans la salle ici, ou non. On reste sur les 10 étages et on compromet le projet lui-même. On sera devant nos responsabilités. Vous n'êtes pas ici pour donner des leçons à la terre entière. On est ici pour assumer les responsabilités dans l'intérêt de la ville d'Aix-les-Bains. Je crois qu'on le fait plutôt pas trop mal. Pour moi, ça commence à faire peut-être trop longtemps. C'est sans doute d'ailleurs votre avis depuis le départ. Mais enfin, en attendant, on est toujours dans les cadres qu'on s'était fixés au départ. On est en train de sortir un projet qui est un projet historique pour Aix-les-Bains. Et moi, j'en suis plutôt fier, plutôt que d'essayer d'être là, à toujours regarder comment le verre est à moitié vide ou à moitié plein. La seule question qui compte, c'est est-ce qu'on saura sortir ce bâtiment, sa réhabilitation, sans que la ville soit mise sur le toit par des propositions comme la vôtre, sur le plan financier. Je vous dis, oui, à l'avance, oui, ce sera le cas. Voilà. On aura un projet magnifique et dans l'enveloppe que nous avons fixée. Si ça ne vous suffit pas, effectivement, moi, je ne sais plus très bien faire au-delà de ça. Et je vous propose de passer au vote sur cette troisième délibération, qui donc est contre. 2, qui s'abstient. 2, je vous remercie. La délibération est adoptée et la séance est levée.